Ces soirs, on va étudier le messianisme chez la venue du Messie promis, chez cette communauté. Mais avant, on va faire un autre tour. Hier soir, on a fait un tour là, avec des photos. On va faire un autre tour ce soir. Je commence avec la même diapositive que j'ai présentée hier soir pour vous montrer où se situe dans la région de la Palestine, de la Judée, la communauté, les lieux de la communauté de Qumran. Dans cette diapositive, vous avez toutes les indications où c'était les grottes qu'ils ont trouvées. Là où il y a la concentration avec 6 grottes, c'était le point le plus près du monastère. On va voir quelque chose en plus. Mais vous voyez qu'il y avait aussi des grottes au moins à 15 kilomètres plus au nord. Ne pensez pas que ce soit des centaines de kilomètres. C'était 15 kilomètres plus au nord de la place où il y avait les monastères. Cette personne-là, au centre, avec les lunettes, et l'autre à l'extrême droite, c'est le professeur de l'Institut biblique de Jérusalem. Il est mort il y a une vingtaine d'années. Roland Devaux. Je suis sûr que Roger Lenoir a entendu parler de lui. Il a écrit beaucoup de choses sur la période entre les deux testaments de l'histoire des Juifs, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et lui, il a été chargé par l'État d'Israël à être comme responsable des fouilles archéologiques qu'ils ont fait là. C'est lui qui a commencé avec des équipes à faire les premières recherches. Et ils ont fait les fouilles archéologiques dans ces places-là que vous voyez en bas, où il y avait les monastères. Maintenant, on va voir quelque chose en plus par rapport au monastère. Ça, c'était des entrées d'eau. Ils recevaient l'eau, et ils avaient beaucoup d'eau là-dedans, on a vu hier soir. Et ça, c'est quelques explications de l'organisation des espaces. Je n'ai pas pu traduire sur cette chose-là parce que j'ai fait la photo avec la description italienne. Maintenant, vous voyez la scriptorium, c'est où les moines faisaient les transcriptions, et maintenant vous verrez mieux la grandeur de cette salle. Vous voyez, c'est plein de personnes, vous avez un peu l'idée de comment c'était. Et maintenant, j'ai un dessin à vous faire voir, un dessin qui est très intéressant parce que c'est un peu, ils ont imaginé comment ils travaillaient là-dedans. Je me suis demandé, mais il n'y a pas de fenêtre, il y avait seulement des trous, il n'y avait pas la vitre à ce temps-là. Voilà comme c'était un peu organisé l'espace dedans. Il y avait quelqu'un qui lisait et les autres qui écrivaient. Ici, il y a une autre organisation, une autre chambre où il faisait d'autres choses. Et il faisait beaucoup de choses. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il faisait. Et cette diapositive que je vous montre maintenant, c'était la salle à manger. Et c'est pas mal comme salle à manger. Et ici, montre un peu comment s'étaient organisés les repas. Ils mangeaient assis sur le sol, ils n'avaient pas de siège et une table, ils étaient assis par terre et là ils mangeaient. Tous les rouleaux qu'on a trouvés, en état pas parfait mais bon, étaient contenus dedans des jarres comme celle-là. Mais n'étaient pas seulement là-dedans avec le couvercle. Elles étaient fermées avec de la cire, pas de la cire, c'était quelque chose de plus résistant au temps. Et vous voyez, ça c'est un rouleau qui a été composé avec les pièces qu'on a trouvées. Ça c'est pas un rouleau, ça c'est des fragments avec lesquels ils ont essayé de composer un rouleau. C'est autre chose. Les rouleaux étaient déjà comme ça, maintenant on va voir. Peut-être que j'ai un rouleau au fermoir, mais on l'a vu déjà d'autres soirées. Ça, c'est un des professeurs qui a commencé le plus, c'est le professeur Tillich qui a commencé à travailler là. vous voyez là, ça, on a trouvé beaucoup de différents poteaux là-dedans, petites eaux. Les plus hauts, c'est celles qu'ils faisaient pour maintenir l'eau dans les temps et pour, après, ils ont conservé là-dedans les rouleaux qu'ils ont trouvés. Ils faisaient des assiettes, on a trouvé des centaines d'assiettes, mais vraiment beaucoup. J'ai une photo, je n'ai pas mis ici parce que je pensais que ce n'était pas le cas. Et on a ramassé toutes les assiettes qu'ils ont trouvées, c'était un coin comme ça, tout là. Ça signifie qu'il y avait beaucoup de gens qui allaient peut-être là pour passer les week-ends et faire les vacances tout près de la mer. Je ne sais pas, peut-être. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Les conteneurs de l'encre. Et une des choses qui a frappé, c'est qu'après 2500 années, ces écritures sur les parchemins, l'encre est encore là. Ça signifie qu'ils utilisaient des produits qui résistaient à la corrosion du temps. Les parchemins se sont détruits en plusieurs places, mais l'encre est restée. Donc ils avaient découvert quelque chose pour faire de l'encre de qualité. Comment ça s'appelle? En italien, ça s'appelle calamari. En français, comment ça s'appelle? Les conteneurs de l'encre. L'encrier. Ils ont fait les encriers, vous voyez là, on voit la dimension. Et ce qu'il a dans les mains, ce sont les stylos qu'ils utilisaient. Maintenant, vous voyez ici les stylos là par terre, et l'encrier, et ils étaient faits d'une façon telle que quand l'encrier s'est reversé, l'encre ne sortait pas. Et il y avait une personne qui avait la tâche d'aller toujours à mettre l'encre de les encrier et avoir tout de suite des stylos prêts parce que les stylos se rompaient. Alors ici, il y a d'autres assiettes en quantité. On a découvert qu'ils avaient tout ce qu'il fallait pour produire la poterie. Ils allaient prendre, et on a découvert que c'est l'argile. L'argile qui était au fond de la mer morte. Moi, j'ai pris de l'argile quand je suis là, je l'ai amené avec moi, 5 kilos d'argile, j'avais peur que ne passait pas au contrôle, mais ils m'ont rien dit. Et j'ai utilisé cette argile pour ma fille qui avait des problèmes dans la peau. Elle est très efficace. Et la peau reste très souple, très douce. Yeah. Alors, vous voyez là en bas, ça c'est une photo récente, mais là il y a une reproduction de comment ils pouvaient préparer leur poterie. Alors, vous voyez ici, en haut à la gauche, il y a la photo aérienne, et en bas, comment pouvait être la reconstruction. Et vous voyez, je l'ai fait ce soir à nouveau parce que je savais que Roger venait ce soir, donc j'ai fait voir à nouveau combien d'eau ils avaient. Vous voyez, il y avait beaucoup d'eau, beaucoup de réservoirs d'eau et beaucoup de baptistères, laissons-les appeler comme ça. Maintenant, je vais faire voir professeur. Non, c'est pas un professeur, c'était. Ah, ouf, le nom. Je pense que ça va être. Archeliene. Je pense. C'est prêtre orthodoxe. Qui était un des premiers qui a eu le rouleau entre les mains. Et ça, c'était le rouleau d'Ésaïe. C'est une photo authentique, celle-là. Le rouleau d'Ésaïe, le premier et un des mieux conservés. La diapositive que je vous fais maintenant, c'est très, très, très importante pour la collocation du temps de cette communauté-là auprès de la mer morte. Ils ont trouvé parmi, dans les fouilles qu'ils ont faites et dans les tombeaux, beaucoup de monnaies. Et ce sont les monnaies qui vont du 223 avant Jésus-Christ au 44 après Jésus-Christ. Et c'est fort logique penser que c'était cela la période dans laquelle ils ont travaillé, vécu et fait ce qu'ils ont fait. c'est découvert de monnaie, de pièces de monnaie, on dit, des pièces. J'ai besoin d'être pour mon français. Cette découverte-là, c'est très importante. Nous savons, par exemple, de la véridicité de Jésus parle des talents, parle des drachmes, parle des différentes sortes de monnaies, des pièces, et on les a trouvées, pas ici, on les a trouvées dans les excavations, dans les fouilles archéologiques faites dans plusieurs places de la Palestine. Ça, c'est, on a trouvé, Jésus dit, à qui appartient cette pièce? À César. Et on a trouvé les pièces où il y avait le visage de Tibère, l'empereur au temps de Jésus. Et on a trouvé ces monnaies. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est très important pour colloquer dans le temps cette communauté. Ça, c'est une découverte qui n'est pas ancienne. Parce que les cimetières, la plupart de ces monnaies, on l'a trouvé. Les gens allaient dans les tombeaux avec les monnaies. Parce qu'ils pensaient peut-être d'avoir besoin de monnaies quand ils étaient là. Dans les cimetières, on a trouvé des monnaies, des pièces. On les a trouvées aussi dans les grottes. Moi, on les a trouvées là où ils ont fait l'excavation qu'il y avait les monastères. Parce qu'une des règles des gens qui étaient là, c'était la règle de la pauvreté. Il devait être sans argent. Peut-être ils recevaient des offrandes, mais ils étaient autonomes pour presque tout. Ils faisaient tout là. Et ils avaient aussi un cimetière où ils allaient servir les gens. L'autre diapositive, je vous montre tout près les baptistères. Non, c'est pas des baptistères. Les bassins où ils faisaient les bains de purification. Et il y avait les bains de purification où il y a le numéro 2, le numéro 3, c'était les bains de purification. Et regardez maintenant comment un peu ça marchait. Les gens descendaient d'un côté, ils restaient là pendant quelques minutes, et après, quand ils pensaient que la purification avait été complète, ils sortaient de l'autre côté. Vous avez un peu l'idée de comment ça fonctionnait à ce temps-là. C'est bon, connaître comment ces personnes vivaient là. Maintenant, j'ai trouvé sur Internet cette photo qui est très intéressante. Quand j'étais là, je ne l'ai pas vue. On l'achète quand on va là, on trouve cette photo-là. Ça, c'est le Wall Street Journal qui annonce qu'il y avait des anciens parchemins à disposition de ceux qui voulaient l'acheter. Ils n'avaient pas encore l'idée de la valeur de ces documents. Alors ils les avaient mis en vente comme ça. Après une année et demie, quand William Holbright, Trevor et d'autres se sont rendus compte de la valeur, alors ils se sont mis à la recherche et ils ont pris contact avec l'Institut biblique de Jérusalem pour cela. Est-ce que vous avez des questions sur cela? Si vous avez l'opportunité, allez à Jérusalem, vous pouvez louer un bus, il y a différentes courses de bus que tous les jours, de Jérusalem, descend jusqu'à la mer Morte. Nous avons pris un de ceux-là quand j'étais là. Ok, maintenant on va voir l'attente messianique des Esséniens, ou disons des ceux qui vivaient là dans cette communauté et qu'ils ont écrit. Il y a beaucoup d'écrits, de documents qui parlent de leur attente messianique. Les documents de Damas, c'est le plus ancien, la règle communautaire qui a été écrite environ dans les années 180 parce qu'ils étaient en train de préparer pour aller de Damas à la mer Morte. Les pêcheurs de la Genèse, c'était un commentaire de la Genèse, des psaumes non canoniques. Dans les psaumes, il y a beaucoup de textes qui parlent du Messie. le psaume 22, par exemple, le psaume 2, le psaume 3, le psaume 8, sont des textes qui parlent du Messie. Mais eux, ils ont écrit d'autres psaumes dans lesquels surtout ils parlent du Messie. Après, il y a les rouleaux, des rouleaux avec des textes narratifs. Il y a l'Apocalypse messianique, la règle des bénédictions, le rouleau de la guerre, l'Apocalypse de Moïse, les pécheurs en commentaire d'Isaïe, d'autres manuscrits et un dernier livre qui a été publié récemment, le livre des géants. Ici, j'ai une partie et il y a le chapitre, un des documents qui a été publié, le trône, The Throne Vision of Daniel 7. Oui, et c'est très intéressant. Et je lis seulement les premiers livres parce que c'est ça que j'ai trouvé hier. C'est hier que j'ai trouvé ce document sur Internet parce que dans le site que j'avais visité précédemment, je n'avais pas trouvé cela. Ils l'ont mis maintenant. Mais je vais aller trouver tous les documents parce que ça m'intéresse ce qu'ils disent sur Daniel 7. Parce que ce que j'ai trouvé et que je vais vous partager ce soir, c'est sur Daniel 9, Daniel 12, Zacharie, Ésaïe, Jérémie, mais pas sur Daniel 7. C'est quelque chose que j'ai vu et que je n'ai pas eu la possibilité encore d'étudier d'une manière approfondie. Ok, maintenant on va voir qu'est-ce qu'ils ont écrit par rapport à leur attente messianique. On va lire une série de documents que j'ai mis sur la diapositive. Le Messie, alors, ça c'est pas quelque chose qu'ils ont écrit, c'est une introduction que j'ai fait moi. Au début de leur expérience, l'attente était un Messie libérateur des oppresseurs, Épiphane. Deuxième, c'est basé sur les textes du prophète Ézéchiel. Le Messie devait venir à réparer la maison d'Israël, à rebâtir le règne, le royaume de David, provenant de quelqu'un qui provenait de la maison de David. Alors maintenant, c'est les documents. Vous voyez, je vous commente encore, ce que vous avez entre parenthèses, c'est le trou qu'il y a dans le parchemin. Alors là, il y a le trou, où il y a entre une page et l'autre, il y a un manque. Peut-être que là, entre les parenthèses, il y avait 10, 15, 20 mots. On ne le sait pas. Mais quand même, on s'est fait une idée. Ceci est une assemblée d'hommes célèbres. Quand le Messie viendra entre eux, les chefs et manques, les prêtres de toute la communauté d'Israël viendra, et tous, et je ne sais pas combien de choses, et termine avec Aaron. Les prêtres s'élèveront. Faites attention. Les hommes célèbres devant tous en fonction de leur dignité. Puis viendra le Messie d'Israël et devant lui seront aussi les chefs et leur dignité. Alors viendra le Messie d'Israël et tous l'accueilleront et feront un bon ok pour lui. Alors ça, c'est alors là je mets aussi où c'est. Un QSA signifie que le document a été trouvé dans la grotte numéro 1. L'autre que je vais mettre maintenant, c'était de la grotte numéro 4. Alors, Yahvé va construire une maison. Il va établir son royaume. Je suis le père de lui. Là, il manque encore. Il sera mon fils. Ce sera le descendant de David qui s'élèvera ensemble à l'interprète de la loi. Et l'interprète de la loi, dans leur écrit, signifie le prêtre, qui doit être l'interprète de la loi. Alors ça, c'est déjà quelque chose qui nous donne une idée de quelle était l'attente messianique. C'était le Fils de Dieu, le Messie qui devait venir. Encore, ici il y a quelque chose en plus. Ça, c'est un document qui remonte plus ou moins à l'année 100. Donc presque 100 années avant la venue du Christ. Dit le prophète Ésaïe, un sceptre est sorti de Yesse, et ça c'est pas la partie importante, le germe de la racine de David et sera juge. Donc, Celui qui va venir comme Messie sera le juge. Et écoutez maintenant. Ils ont mis à mort les princes du peuple, les germes de David. Donc les germes qui vont venir, ils vont les mettre à mort. Et regardez maintenant, avec des clous. Et après, il manque beaucoup, il manque quelque chose. Des prêtres feront cela. Ils arrivent à comprendre que ceux qui vont tuer le Messie seront des prêtres. Alors nous savons que ce n'étaient pas les prêtres qui ont tué le Messie, mais les prêtres ont consigné le Messie dans les mains de Pilate, et Pilate l'a fait tuer. Et là, sur la droite, vous avez un document sur la souffrance du Messie qui a été trouvé là-bas. Il sera le fils de l'homme et want de souffrance, Messie de souffrance. Et en bas, il y a trois documents qui disent ces choses-là, qu'il sera fils de l'homme et sera un Messie de souffrance. Encore, alors ça c'est un résumé, fils du Dieu, du Dieu Tout-Puissant, et c'est dans les documents là. Fils du Dieu Très-Haut, et encore les documents, c'est les mêmes. Le fils premier-né, un autre document. Il régnera sur tout le peuple. Le Messie va rétablir le royaume d'Israël, qui sera un royaume qui aura la domination sur tous. Et ici, c'est l'origine. Il sera le roi des nations, le serviront et lui obéiront. Et ici, il y a le document. Et encore, le final, je n'ai pas mis l'animation. Le prince de la congrégation va tuer les germes de David. Ils sont les chefs et les princes et les prêtres qui vont tuer le Messie. Je pense qu'ils ont compris ça pour la façon que déjà les chefs et les prêtres sont en là, étaient en train de s'évoluer. Leur attitude, ils la comprennent comme une attitude qui n'était pas fidèle. Il sera grand sur la terre. Après faire la paix et servir, il sera appelé fils du grand Dieu, sera appelé par son nom, sera celui comme le fils de Dieu et fils de, peut-être David. Sa volonté est un règne éternel. Il va établir la paix avec les flammes. Le Dieu d'Israël est et sera dans tous les événements éternels. Ceci est le jour fixé pour humilier les princes du mal. Il a envoyé un aide éternel et la partie restante est rachetée par la puissance de l'ange puissant sous l'ordre de Michaël. Voilà, encore il y a une mention au livre de Daniel, parce que c'est seulement Daniel qui mentionne Michaël dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous l'avons dans le livre de l'Apocalypse, mais dans l'Ancien Testament, c'est seulement dans le livre de Daniel. Une autre, c'est très intéressant ceci, le Fils de Dieu sera proclamé Fils du Très-Haut, comme la clarté d'une vision sera leur royaume. Leur règne est un règne éternel et leur pas dans la vérité. Il jugera la terre dans la vérité et faire la paix. Peut-être ici les Français, ce n'est pas l'idéal. L'épée cessera sur les provinces de la terre et le grand Dieu vous aidera. Leur domination est éternelle. Alors ici, il y a quelque chose d'éternel. J'ai voulu voir les documents originaux ce soir pour voir si c'était vraiment comme ça. Ici, il y a quelque chose qui nous ramène à Daniel 7. En Daniel 7, vous lisez le verset 13. Il parle du Fils de l'homme qui vient sous les nuées du ciel et les royaumes, les dominions est donné à lui. Mais après, si vous lisez le verset 25, c'est écrit, « Après, il y aura le jugement et le pouvoir sera donné au Fils, pluriel, de l'Éternel. » Donc, ici, il y a une claire idée qui vient du chapitre 7 de Daniel. Alors, les derniers documents que j'ai ici, « Le Seigneur fera des actes glorieux que vous n'avez jamais vus. » parce qu'il prendra soin des blessés, fera revivre des morts, il vient avec la résurrection, il annoncera des bonnes nouvelles aux humbles, Il remplira, guidera et donnera des richesses à ceux qui ont faim. Waouh, c'est fantastique ça. Quelle compréhension de l'avenir ils avaient. Mais qu'est-ce que vous remarquez ici? Ce n'est pas clair dans ces écrits qu'il y aura deux venues. Soit le Messie qui vient et il sera tué, soit le Messie qui va établir le royaume éternel, c'est dans leur espérance, mais il n'y a pas une claire compréhension de deux événements différents. Tandis que dans le livre de Daniel, il y avait déjà les deux événements, et même dans le livre de Malachie, les deux événements distingués. Daniel 9 parle du Messie qui vient et il meurt pour les péchés. Daniel 12 parle de Michel qui vient et sera celui qui donne la résurrection. C'est clair, c'est différent. Daniel 7, c'est le Messie qui vient sous les nuées du ciel. Daniel 9, c'est le Messie qui vient et il sera tué. Ils ont fait confusion sur ces deux venues de Messie et ils les ont mis tous là ensemble. Et c'est ça quelque chose qui les Juifs au temps de Jésus n'avaient pas compris. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas accepté le Messie. Mais pour nous, c'est très intéressant ce que nous avons vu parce que nous avons, à travers cette présentation, cette lecture, nous voyons que cette communauté voyait dans le Messie la solution de tous les problèmes. Il n'avait pas une belle compréhension suffisante pour les deux venues du Messie que dans l'Ancien Testament nous avons, mais ils avaient vu que c'était avec la venue du Messie qu'il y avait la solution des problèmes de l'homme. Ce que je voulais partager avec vous ce soir. Demain soir, on va étudier un thème très important. Quelle était leur compréhension de la vie et de la mort? Mais vous verrez les changements qu'ils ont faits dans le temps de leur compréhension. Parce qu'avant, ils comprennent d'une façon, vers la fin, vers le temps de la venue du Christ, leur compréhension change. Cette évolution, selon Martin Hegel, c'est dû au fait qu'après longtemps, ils ont eux-mêmes accepté la philosophie grecque dans leur vision de la vie. Mais nous allons le voir demain soir.